foutage.
Quand on a commencé, il y avait deux chaînes.
Brisé.
Mais c'est pas intéressant pour ces idées-là. Elle est à 20h.
Martyrisé.
Quand on a commencé, il y avait trois radios qui comptaient.
Quelque chose qui ne devrait pas être dit.
Maintenant, il y en a des centaines.
Peut encore être dit.
Mais libéré.
Ce que je veux, c'est être libre. Ce que je veux, c'est être libre. Ce que je veux, c'est être libre. Et vivre sans contrainte.
Je suis sur une radio généraliste, donc je tiens compte des grands courants.
Il y a quelqu'un qui l'entendra, et puis ça ressortira.
Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Presse Libérée, l'émission mensuelle sur l'actualité des médias libres, pas pareil, alternatif, etc., etc. Eh bien pour cette émission de mars, nous allons commencer pour une première partie avec le journal L'Arlésienne, qui se trouve, comme son nom l'indique, à Arles. Et puis en deuxième partie, nous parlerons des radios associatives de région PACA, puisqu'elles ont un petit souci, c'est que la région a décidé de leur couper les subventions du jour au lendemain. Donc on détaillera tout ça en deuxième partie, et on retrouvera entre les deux, bien sûr, notre cher ami Sébastien Boistel et sa chronique, comme chaque mois. Voilà, et ce mois-ci, il nous parlera de journaux et de patrimoine immobilier. Qu'ont ces journaux ? Avec moi pour cette émission, il y a Thomas. Salut Thomas.
Salut.
Et ben, on va commencer tout de suite cette première partie avec Hélène Servel et Éric Bessati de L'Arlésienne. Salut à tous les deux.
Bonjour.
Salut.
Alors, L'Arlésienne, deuxième numéro qui s'apprête à sortir. C'est pour quand déjà ?
Après trois décalages de bouclage, on va sortir le 6 avril, mais là c'est la bonne.
Donc c'est un journal, comme on l'a dit. Un journal assez beau, hein, que vous soignez avec un joli papier. Ça ressemble plus à un magazine bien soigné avec des photos. Pourquoi avoir fait ce choix pour un journal très, très local de cette esthétique ?
C'est pour donner envie aux gens de le prendre en main, aux gens de l'acheter, aux gens de le garder et finalement pour le concept de plaisir de lecture. Voilà, pour que les gens prennent du plaisir à le lire et parce que c'est toujours plus agréable de regarder quelque chose de beau et qui tient bien en main.
Et puis c'est pas parce que c'est local que ça doit être moche. Donc on s'est dit que finalement, on avait aussi besoin et envie d'avoir des infos locales, si possible de qualité, et puis qui soient enveloppées dans une jolie coquille. Mmh. Voilà.
Alors je pensais pas au terme de moche hein, quand je disais ça, mais c'est plus que quand on fait de belles impressions, ça a un coût. On en reparlera peut-être au cours de cette interview. Et que là, vous avez fait vraiment le choix d'une esthétique particulière. Thomas voulait ajouter une chose avant qu'on en vienne un petit peu sur le sens de votre journal.
Oui, vous faites partie des rares journaux alternatifs qui quand même ont font du photo-reportage. Je vois qu'il y a plein de photos, de dessins. Alors pourquoi ce choix d'utiliser la photo qui malheureusement disparaît de plus en plus ?
C'est un médium qu'on aime bien manipuler. On a quelques bons photographes, enfin des gens qui s'amusent à faire de la photo dans l'équipe. Et puis on se dit aussi que les portfolios, c'est aussi une autre approche de l'information qui permet de rentrer dans le sujet. Et puis, ça prend beaucoup de pages pour pas beaucoup de travail, donc c'est parfait.
Arles, c'est une petite ville des Bouches-du-Rhône, c'est une sous-préfecture. Je vois que je parle petite, j'ai vexé un petit peu.
J'ai l'impression qu'il y a un peu de condescendance dans ces propos. Arles, c'est d'abord le centre du monde, il faut le savoir. Et c'est donc la troisième ville du département, après Marseille et Aix. Une des habitants agglomérés, donc c'est 55 000 personnes. Donc oui, c'est une sous-préfecture, mais une grande sous-préfecture et le centre du monde avec un rayonnement international.
Et c'est la plus grande commune de France. Ça, nul n'est censé l'ignorer, il faut quand même bien le préciser.
Voilà. En superficie, effectivement.
Bon, alors, Arles, c'est censé être un bastion communiste depuis
2001, il y avait le PS avant avec Vauzelle en 95, il y a eu une parenthèse à droite entre 89 et 95, les chiffres sont pas exacts. Et avant, oui, c'était avec la municipalité Jacques Perrot, c'était depuis l'après-guerre, c'était un bastion communiste jusqu'aux années 80, quoi, effectivement.
Et du coup, c'est quand même une spécificité quand même dans le coin, dans ce coin de la France où c'est quand même plutôt à droite, voire à l'extrême droite.
Et donc vous êtes le seul média associatif, voire alternatif du territoire ?
Ouais, je crois. Hein. Il y a des radios, 3DFM, Radio du Pays d'Arles, Soleil FM. Bah, ils ne ressortent pas par leur goût de l'enquête, voilà.
Et puis, il le revendique peut-être pas forcément, ce caractère indépendant, peut-être à part 3DFM, là, une radio arlésienne. Mais c'est vrai qu'en termes de presse écrite, je pense que sur le territoire assez restreint du Pays d'Arles, je pense que oui, on peut dire qu'on est la seule publication écrite indépendante de presse, quoi.
En tout cas, on est identifié comme le journal à qui parler quand on a envie de faire sortir des choses qui ne peuvent pas trop sortir ailleurs. Enfin voilà, on est une parenthèse dans l'espace public qui permet de dire des choses comme nulle part ailleurs sur le territoire.
Et donc c'est pour ça que vous avez créé ce journal. Le premier est sorti le 30 juin 2017.
Alors en fait, ce journal, c'est une longue histoire qui remonte à 10 ans en arrière, en 2008. C'est la continuité en fait d'un premier journal qui s'appelait Le Gai Savoir, qu'on a créé à l'origine avec une bande de copains, copines, à la sortie du lycée, où il y avait déjà une petite équipe d'entre nous qui faisait partie du journal du lycée. Et à la sortie, quand on a tous eu notre bac petit à petit, on a eu envie de créer un journal au-delà du cadre du lycée qui était assez restrictif. On s'était pas mal fait taper sur les doigts par le proviseur. Et donc, en fait, voilà, ça fait 10 ans que ça dure. Au départ, c'était... Cette publication du Gai Savoir, c'était donc un apériodique, c'est-à-dire on sortait à peu près quand on pouvait, mais en gros c'était à peu près une fois par an, un gros numéro par an, pendant les 4 premières années. Donc à chaque fois on faisait un événement pour la sortie, etc., il était vendu un peu partout dans la ville. Et les 4 années d'après, la forme a un peu changé et on a décidé de faire, donc pendant les deux semaine de gros festivals pendant l'été, en juillet notamment, donc les rencontres de la photo et ensuite le Festival des Suds, c'est un festival de musique du monde. On a décidé de faire une forme quotidienne, c'est-à-dire qu'on avait un local qu'on louait, qu'on transformait en bar associatif avec une salle de rédaction, et chaque jour on sortait un 12 pages. Autant dire qu'on ne dormait pas des masses, et que grâce à ces expériences-là, on s'est aussi rendu compte assez vite que la bière était vachement plus rentable que les journaux. Mais on a continué, ça nous a en tout cas donné une base très chouette, où c'était vraiment une expérience de construire un journal un peu en temps réel, avec plein d'interactions aussi qui se faisaient avec le lectorat, des coups de gueule, des apports, voilà, enfin, bref, très très riche. Tout ça, c'était archi bénévole, même voire plus que bénévole. On est quelques-uns dans l'équipe à être devenus journalistes entre-temps, ou à essayer en tout cas, et on a eu envie de faire quelque chose d'un peu plus professionnel, ou en tout cas qui puisse nous permettre d'en vivre un minima.
Dans les années du Gai Savoir, on est monté en puissance petit à petit au niveau éditorial, avec en musclant un peu nos articles petit à petit, en huilant un peu les choses entre nous aussi. Et puis, maintenant, on s'est dit, on arrête le groupe de rock du lycée, qui était un peu le Gai Savoir. On passe à l'âge adulte et on change donc de nom de journal. On passe du Gai Savoir à l'Arlésienne, parce qu'avec l'Arlésienne, on induit un modèle économique, et on ne voulait pas, entre guillemets, salir l'utopie post-lycéenne qu'on avait eue avec le Gai Savoir. Alors maintenant, on a un modèle économique, donc on a changé de nom. On a un nom aussi plus passe-partout. C'est une volonté d'élargir le lectorat et pour pouvoir parler au plus de monde possible, quoi.
Du groupe de rock du lycée au Rolling Stones, si je t'entends bien, Eric. Ce nom de l'Arlésienne, il fait référence à quelque chose, j'imagine, pas que à la ville d'Arles. Est-ce que vous avez pris cette référence, justement, de l'expression qui est passée dans le langage courant et qui vient de l'œuvre d'Alphonse Daudet, l'Arlésienne, ce personnage dont on entend parler mais qu'on ne voit jamais, finalement. Est-ce que vous êtes inspiré de ça ?
Complètement. Il y a 3 significations à l'Arlésienne. C'est d'abord une définition du territoire que l'on traite. Donc l'Arlésienne, le secteur où l'on s'habille en Arlésienne, c'est le Pays d'Arles. Saint-Rémy à l'ouest, Château-Renard au nord, Sainte-Marie-de-la-Mer au sud-est et Saint-Martin-de-Crocs à l'est. Donc en fait, voilà, il y a le Pays d'Arles.
Sur l'ouest des Bouches-du-Rhône, on pourrait résumer. Voilà.
Ensuite, c'est aussi la figure, ça fait appel aux traditions. Voilà, l'Arlésienne, c'est aussi une façon de s'habiller, voilà, pour revendiquer notre singularité culturelle. Et l'Arlésienne, c'est celle que l'on attend toujours. Voilà, on a un journal à périodique qui n'a pas de périodicité. Et donc, notre petite phrase, c'est « on parle que quand on a quelque chose à dire, donc on paraît un numéro que quand il est prêt et nos enquêtes sont bien, bien mijotées, quoi. »
Alors, vous dites que vous avez changé de modèle économique, que vous êtes devenu plus gros. Alors, combien il y a de personnes dans la rédaction et sur quel modèle économique vous êtes basé ?
Alors, on n'est pas devenu plus gros, on est même devenu plus petit. Parce qu'en fait, avant, on était presque une vingtaine de bénévoles. Et donc là, le noyau dur de rédacteurs, voilà, voilà, c'est 5 personnes, quoi. C'est 5 personnes où on pousse l'Arlésienne à fond. Et puis, il y a toujours les anciens du Gai Savoir pour nous donner un coup de main sur les sorties du numéro, pour nous accompagner, pour faire plein de choses avec nous. La finalité, c'est de pouvoir se payer en pige avec l'association qui rémunérerait les rédacteurs des articles.
Et donc vous avez des subventions ?
Les subventions, ouais, c'est un parti pris depuis le départ, même au Gai Savoir, depuis 10 ans. Jamais de subventions, parce que c'est une façon d'être le plus libre possible, tout simplement. On ne va pas demander des subventions aux politiques. C'est une perte de temps, d'énergie et une perte d'indépendance.
Et non seulement on ne va pas en demander, mais on en a refusé parce qu'on nous en a proposé en nous tapant sur l'épaule comme des petits jeunes. Allez les gars, je vais vous filer 1000 balles. Et en fait, on a... oui, c'était vraiment une ligne politique dès le départ qu'on a tenue jusqu'à présent. Et c'est quelque chose de très important, quoi.
Donc au final, notre modèle économique, c'est vente du journal. Et puis on essaye toujours de coupler la sortie du numéro avec un événement. Donc là où on vend de la bière aux adhérents. Et on va lancer des lignes de t-shirts, des sacs en tissu, enfin voilà, on va faire des goodies pour pouvoir augmenter notre chiffre d'affaires.
Comment on fait pour fidéliser des lecteurs avec une parution apériodique?
Je ne sais pas si c'est une histoire de fidéliser, mais en tout cas, je crois que la nature même des sujets qu'on aborde, en fait, ça parle à pas mal de gens, pas à tout le monde, ça c'est sûr, et c'est un dilemme auquel on fait face depuis le début, c'est-à-dire est-ce qu'on essaie vraiment de s'adresser au plus grand nombre, ou est-ce qu'on sait dès le début que, en fait, les sujets et la manière dont on aborde ces sujets-là, ils vont forcément créer des clivages, enfin, en tout cas, voilà, tout le monde n'est pas intéressé, ou n'est pas attiré par une publication comme ça, mais en tout cas, ceux et celles qui nous suivent depuis le début, depuis 10 ans, je pense que, ouais, c'est essayer d'avoir des enquêtes un peu de fond sur le territoire, qui est peut-être pas si fréquent, comme le disait Eric, dans d'autres publications locales où, en fait, les journalistes n'ont pas le temps ou pas les moyens de...
Et ou pas l'envie et ou pas l'indépendance.
Oui, voilà. Mais du coup, je pense qu'il y a ça. Il y a le côté aussi, effectivement, à chaque fois qu'on fait une sortie, un peu un côté festif où c'est aussi ça, en fait, l'esprit Gai Savoir puis Arlésienne. C'est on se retrouve et il y a un truc de convivialité, il y a quelque chose autour de... Oui, de la fête et de voilà du partage de c'est un, le journal est un prétexte pour se rencontrer aussi et c'est pour ça aussi qu'on tenait beaucoup à la version papier parce que c'est vraiment un objet qu'on peut se passer de la main à la main qui circule qui crée de la discute enfin avec la bière évidemment comme d'habitude mais voilà c'est quelque chose qui est je crois très important et qui fait aussi que les gens ils ont envie de suivre le truc quoi.
Alors, l'Arlésienne, c'est Gazette, Enquête et Anisette. Et là, je suis curieux de quoi vous parlez, en fait. Quels sont les sujets que vous allez aborder, par exemple, dans le prochain numéro?
C'est ce qui est écrit sur la couverture, mais on n'est pas trop sûr, parce qu'il nous parle de bière depuis le début. Bref.
C'est pour la rime.
C'est pour la rime, et puis pour le côté... ouais, on est sérieux, mais on est rigolo aussi. Enfin, voilà, on veut être dans la forme le plus drôle possible, le plus léger, quoi. On fait des blagues, quoi, oui, voilà. Mais on est sérieux aussi, voilà. Le Ravi, donc mensuel régional satirique en PACA, dit souvent être sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà, je pense qu'on peut, on peut dire la même chose pour nous. Et donc là, par exemple, on va faire des trucs hyper, entre guillemets, chiants. C'est, allez, on va prendre du vocabulaire scientifique. Alors, on va traiter des conflits d'usage du territoire du Pays d'Arles, c'est-à-dire comment les structures de gestion de l'environnement ont des intérêts divergents par rapport aux agriculteurs, par exemple, ou aux pêcheurs, et comment voilà, les gens se mettent d'accord pour une certaine gestion. Donc il y a des conflits, des polémiques. Voilà.
Et on a l'immense chance d'être sur un territoire où, à ce niveau-là, il y a quand même largement de quoi faire en termes de pollution, gestion de l'environnement, plus ou moins greenwashé, etc. Et c'est un territoire agricole aussi qui est important, où il y a des enjeux, alors non seulement environnementaux, mais aussi sociaux et humains, notamment avec, je pense, à des articles un peu plus sur les droits des travailleurs, et notamment les droits des travailleurs étrangers, migrants, dans la plaine de l'Acro et un peu partout autour d'Arles.
Donc ils sont saisonniers agricoles, hein, pour préciser.
c'est aussi ces questions-là, en fait, qui sont abordées dans ce numéro-là. Et il y a aussi une partie qui est un peu égrenée au fil du numéro, de ce qu'on a appelé des respirations historiques. C'est un peu une sorte de fiction, en fait, historique sur l'histoire des migrations dans ce territoire-là. C'est aussi des choses qui tranchent avec le ton reportage actuel.
On a des fictions aussi. On a une fiction qui part du réel et qui explore un peu l'avenir, etc. Mais aussi, dans le prochain numéro, il va y avoir comment la finance s'introduit dans la gestion de l'environnement, par exemple. Comment les compagnies comme Total mettent leur logo en dessous des structures de gestion de l'environnement, et comment la finance internationale prend en main la question de la gestion de l'environnement. Donc, à partir d'Arles, on peut toucher à l'universel.
Ce que vous êtes en train de dire là, on pourrait résumer peut-être, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette affirmation, mais que finalement vous n'êtes pas détaché de l'historique, mais aussi du global, voilà, et que beaucoup, beaucoup de journaux locaux l'ont oublié, ça, quelque part, peut-être.
Ouais, bah, c'est vrai que là, en tout cas, dans le cas de ce numéro-là, c'est vrai que ça touche en fait à plein de choses qui existent ailleurs et qui font partie d'un système global, quoi, globalisé. Mais c'est intéressant, justement, je trouve, de pouvoir illustrer ça à un niveau local, tout en considérant des grandes dynamiques. Là, cette histoire de finance, c'est aussi comment la gestion de l'environnement rentre aussi dans les lignes et les grandes cases du capitalisme, quoi. Voilà, c'est des choses qui existent partout. Le précédent numéro, il était pas mal tourné autour de la culture, et notamment de tout ce qui est en train de se passer, des transformations culturelles qui sont assez importantes, qui sont en train de se passer à Arles, et qui prennent une dimension un peu aussi, pas du tout que locale, mais en tout cas au niveau national en France, avec la tour de la Fondation Luma qui est en train de se construire et qui autour de laquelle il y a quand même pas mal de polémiques, ou pas que des polémiques.
Alors, mais c'est ça, quoi, cette Fondation Luma et cette tour, est-ce que tu peux nous préciser?
La tour de la Fondation Luma, c'est la réalisation de la Fondation Luma qui est gérée par l'héritière des laboratoires pharmaceutiques Hoffmann-La Roche. Donc c'est Maya Hoffmann qui investit à grands frais dans la ville d'Arles. Et grosso modo, il y a des questions de gouvernance de la vie publique, il y a des questions même de destinée de la ville par rapport à cet investissement qui est colossal sur une ville aussi petite. Et voilà, les questions qui se posent autour de ça sont énormes, quoi. Et on est un peu les seuls à pouvoir remettre en question le modèle de développement de la Fondation Luma, parce qu'on n'a pas peur de se vexer avec eux, parce que tout simplement c'est...
Parce que vous n'êtes pas dépendant financièrement.
Quand je pense à la presse quotidienne régionale, c'est beaucoup plus compliqué pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas faire une enquête qui tacle un petit peu et pose les questions que les gens n'ont pas envie de voir poser. Parce que le lendemain, ils les revoient. Alors que nous, on peut se dire, bon, ben, on fait notre article et puis on attend que ça passe 6 mois. On n'a pas besoin de eux tous les jours pour qu'ils nous fournissent de l'information, quoi.
Et puis la ville d'Arles, au niveau culturel, justement, elle a un rayonnement particulier, parce qu'il y a, voilà, par exemple, une institution comme les rencontres, le Festival de la photo qui s'appelle les Rencontres de la photographie, qui a un rayonnement international et qui fait beaucoup parler d'elle dans les grands journaux cultureux, culturels, etc. Et du coup, il y a des enjeux locaux que ces médias-là ne traitent pas à ce moment-là, parce que c'est plus branché sur le volet... culturel. Et maintenant, la ministre de la Culture française, Françoise Nyssen, justement, qui vient d'Arles aussi. Et pareil, ça implique plein de choses. Et ça, cette personne-là en particulier, elle a un rôle particulier dans la ville d'Arles, notamment au niveau de ses éditions Actes Sud, le fait qu'elle possède, avec son mari, plutôt, voilà, son mari, mais qui possède globalement la moitié de la ville.
La Fondation Luma pose la question du partenariat public-privé dans la gestion d'une ville, quoi. C'est un laboratoire, Arles. On est en train de voir une force privée qui décide au moins à moitié de ce que va être la ville de demain. Donc en ça, c'est vraiment un laboratoire pour la nationale et internationale.
Avec un maire communiste.
Donc on est dans le mélange des genres assez, assez intéressant. Et pour revenir au modèle de l'Arlésienne, est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui peut inspirer sur d'autres territoires pour proposer des journaux locaux? Et si oui, c'est quoi les conseils que vous aurez à donner à des gens qui ont envie de lancer un journal sur leur territoire?
Soyez jeunes et motivés, parce qu'on ne peut pas faire ça très longtemps, parce que le modèle tel qu'il est, il tient à notre bénévolat. Et puis après, on va voir si on arrive à se payer un petit peu. En tout cas, c'est l'ambition. Mais effectivement, il faut avoir beaucoup de passion, quoi. Voilà. Nous, c'est pas pour rien qu'on le fait à Arles. C'est parce qu'on est né à Arles et qu'on a un rapport spécial au territoire. Et que aussi, c'est qui nous intéresse au plus haut point. Et on le voit évoluer. Donc ouais, il y a un côté passion et non pas juste professionnel, quoi.
Oui, soyez jeunes et motivés, et puis trouvez des substances excitantes assez rapidement, illicites ou pas, parce qu'en fait, il y a plein de moments où on dort pas beaucoup. Il faut être motivé pour le faire, parce que sinon, je pense qu'on se décourage assez vite. Essayez de faire ça avec des gens avec lesquels on se sent bien aussi, c'est important. C'est aussi un truc de long terme, j'ai l'impression. C'est un processus de long terme qui se construit petit à petit. Et il faut pas, enfin, peut-être pas se lancer dans quelque chose trop rapidement, mais essayer de réfléchir un petit peu à la mise en place de la chose et à la manière dont ça peut être un peu pérenne, quoi.
Les conseils, c'est ne pas s'imposer une périodicité, vraiment. C'est-à-dire que le journal, il sort quand il sort, pas se promettre de sortir tous les mois, parce qu'après, ça peut pousser à faire des bêtises, parce qu'on va pas assez au bout, on laisse des erreurs, etc. Y a un petit conseil aussi, quand on fait du papier, quand on imprime un journal, ne pas hésiter à faire du noir et blanc, c'est très esthétique, et ça coûte 4 fois moins cher. Voilà, des petits conseils comme ça. Et juste pour revenir tout à l'heure, quand je disais il faut être jeune et motivé, on peut être jeune à tous les âges, hein, mais jeune, c'est-à-dire disponible, quoi, avoir du temps, on peut être retraité et jeune, hein, par exemple.
Et de l'amour.
Et de l'amour.
Et alors, si nos auditeurs qui n'habitent pas à Arles et n'ont pas la chance de pouvoir aller chercher de l'Arlésienne directement lorsque vous ferez votre événement, où est-ce qu'ils peuvent trouver ce numéro ?
Dans la recherche du nouveau modèle économique, on va lancer un site internet à accès payant qui va sortir donc le 6 avril, donc www.larlesienne.info, où il y aura toutes nos archives du Gai Savoir, plus nos nouvelles productions de l'Arlésienne, où on mettra tous les articles qui seront disponibles en ligne, mais de façon payante.
Et la sortie du numéro 2, rappelez-nous quand est-ce que c'est, et comme ça on aura fait le tour de la question de l'Arlésienne, qu'on n'a toujours pas vue, mais bon, on aura l'occasion de la voir au moment de cette sortie.
Donc c'est le 6 avril 2018, à la salle Jean-Éponce de Dieu, rue du 4 septembre, à Arles, le centre du monde.
À quelle heure ? Parce que tu as été précis sur le lieu, mais pas sur l'horaire.
Ni sur l'événement.
19h. Bon, sur l'événement, pour nous, c'est assez simple. Hein. On met une tireuse à bière, des journaux sur une table, et puis peut-être de l'houmous. Je sais pas, Hélène nous fait souvent de l'houmous. Les mamans préparent à manger.
Bon, mais on salue les mamans, on salue les lectrices et lecteurs de l'Arlésienne. On salue l'équipe, voilà, toute l'équipe. Et puis, ben, merci à tous les deux. Donc, Eric Bessacci et Hélène Servelle. On va conclure cet entretien par la farandole, extrait de la suite numéro 2 de l'Arlésienne de Georges Bizet, forcément, qui est interprétée ici par l'orchestre de l'Opéra Bastille. Et juste après, eh bien, c'est Sébastien Boistel qu'on retrouvera pour sa chronique, dans laquelle il sera question de journaux et de leur patrimoine foncier, j'allais dire financier, mais c'est financier du coup, pour le coup. Donc j'ai presque pas dit une connerie. Bref, et de leur patrimoine foncier. Voilà, restez à l'écoute, vous êtes bien sur Presse Libérée.
Thank you.
bien, il est toujours là, en chair et en os, dans cette émission Presse Libérée, comme chaque mois. Et quand il ne tend pas ses petits bras pour sauver ceux qui ont du mal à se tendre vers le haut, à savoir ceux du Ravi, le journal pas pareil en région PACA, puisque Sébastien Boissel est journaliste là-bas. Et quand il ne s'agite pas avec Médias Citoyens PACA, eh bien c'est dans Presse Libérée qu'il se fait entendre avec sa chronique. Bonjour Sébastien.
Bonjour. On aurait pu donner à cette chronique le titre du documentaire de notre consoeur Héloïse Lebourg, l'instigatrice des rencontres des médias libres, Plume de béton. Parce que si le métier de TF1, c'est de vendre du temps de cerveau humain disponible à Coca-Cola, si notre boulot, c'est de porter la plume dans la plaie, comme disait Albert Londres, en fait, la seule vraie richesse dans un média, ce ne sont pas les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs, même si tout cela se monnaie, bien n'en doutez pas, ce ne sont pas les journalistes, sinon ils ne s'en licencieraient pas par dizaines. La vraie richesse d'un média, ce sont ses murs. Ça doit être l'âge, mais avec 20 ans de service en tant qu'articulier, j'adore ressasser les vieilles histoires. Pendant environ 10 ans, j'ai œuvré à l'Humanité, le journal de Jaurès, qui a longtemps avait son siège du côté des grands boulevards à Paris, quartier de l'argent, de la presse et de la prostitution, mais ça n'a évidemment aucun rapport. Qui ensuite, comme un cadre qui n'a plus les moyens, s'est installé en banlieue, dans le 9-3 à Saint-Denis, dans un bâtiment prestigieux toutefois, signé par l'architecte Oscar Niemeyer. Seulement voilà, avec les ans et les difficultés, le bâtiment sera hypothéqué, puis finalement vendu, et l'Humanité deviendra simple locataire, d'abord à Saint-Denis, puis du côté de Saint-Ouen. Quand vous vous retrouvez, comme cela a été le cas pour le Ravi, en situation de redressement judiciaire, surgissent des personnages étonnants comme le commissaire Priseur, qui fait le tour de l'entreprise pour faire le point sur les actifs, en clair sur ce qui lui appartient et ce qui peut être vendu aux enchères si besoin est. C'est grâce au commissaire Priseur que vous découvrez que le magnifique ordinateur qui est votre compagnon le plus proche et le plus fidèle ne vaut pas plus qu'une paire de baskets. Et quand vous êtes locataire, vous n'avez clairement aucune valeur. Peut-être pour ça que l'histoire de la Marseillaise, hein, le quotidien d'obédience communiste de la cité phocéenne, qui joue en ce moment à nouveau sa survie devant le tribunal de commerce, c'est aussi une histoire immobilière. À la fin des années 80, quand le titre connaît une première liquidation pour renaître, l'acte de naissance de la SELPCA, c'était le nom de la société qui avait derrière la Marseillaise à l'époque, ça ressemble à une page de supplément immobilier. Et c'est à la faveur de la procédure qui aboutira à la cession du titre aux éditions des Fédérés il y a quelques années que sera mis en lumière le fait que l'immeuble de la Marseillaise fait l'objet d'un crédit-bail de 2,5 millions d'euros avec une filiale de la Caisse d'épargne. Un crédit-bail, c'est vous n'êtes plus vraiment propriétaire des locaux, on vous avance de l'argent sous la forme d'un prêt et vous pouvez continuer à occuper ce qui était jusque-là votre immeuble, mais si par hasard vous n'arriviez plus à honorer vos dettes, on récupérera l'immeuble. En gros, une belle affaire. D'ailleurs, quand le titre est passé de la SELPCA aux éditions des Fédérés, la Marseillaise s'est aussi débarrassée d'une partie de ses agences, donc de son patrimoine immobilier. Constructa, le promoteur immobilier marseillais, qui, par simple hasard, construit du côté du front de mer marseillais une tour qui s'appelle la Marseillaise. Constructa, ils auraient bien aménagé quelques appartements de standing dans cet immeuble où la rédaction aurait gardé quelques locaux. Et dernièrement, un autre promoteur immobilier marseillais, Quartus, s'est invité au débat, disant lui aussi soudain son appétit pour la presse et le débat d'idées, bon, et puis les murs autour. Donc on pourrait prendre aussi un autre exemple, hein, celui de Tapie et de la Provence. Quand Bernard Tapie met la main sur la Provence, mais aussi sur Nice Matin et Corse Matin, c'est évidemment par amour de la liberté d'expression. Mais aussi parce que tout ce beau monde dispose d'un patrimoine immobilier qui est loin d'être négligeable. Ainsi, quand Tapie vient à la rescousse de la coopérative de presse de Nice Matin, il ne devient pas à proprement parler actionnaire. Mais l'argent qu'il leur prête lui permet, en cas de difficulté, de mettre la main sur les locaux du journal niçois. Et alors que Tapie va vraisemblablement devoir rembourser 404 millions d'euros dans le cadre de l'affaire qui l'oppose au Crédit Lyonnais, c'est évidemment un pur hasard si dernièrement, comme l'ont rapporté nos collègues de Mars Actu, les locaux de la Provence ont fait l'objet d'une évaluation de leur valeur. On ne sait jamais. Bon, je résiste pas à conclure cette chronique en signalant que ces problématiques concernent aussi la presse et les médias pas pareil, puisque plusieurs de nos confrères de cette galaxie sembleraient pouvoir bénéficier des largesses d'un mécène qui serait prêt à mettre à leur disposition un bâtiment, une sorte d'agora des médias pas pareil, une manière aussi de mutualiser. Pour connaître le nom des médias et du généreux donateur, vous pouvez envoyer vos chèques au Ravi, 11 boulevard national, Marseille, 1er arrondissement. À titre indicatif, le loyer de nos locaux est de quelques centaines d'euros.
Merci Sébastien, et c'est vrai que l'immobilier, ça peut être le nerf de la guerre pour beaucoup de médias. Je pense à une radio qui a fait le choix et qui a eu le soutien de ses auditeurs pour se passer de cette problématique et qui est devenue elle-même propriétaire, c'est Radio Canut à Lyon, et ça lui permet d'assurer son indépendance. Et justement, des radios associatives, il en sera question dans la deuxième partie de cette émission Presse Libérée, puisqu'on va s'intéresser aux radios associatives de PACA qui ont du fil à retordre avec la région, puisque le président de la région, Renaud Muselier, a décidé du jour au lendemain de leur couper les subs. Et évidemment, ça pose quelques problèmes. Voilà, c'est de ça dont on va parler tout de suite.
Ici, veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. La fortune vient en dormant. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage.
Unilatéral et brutal. Renaud Muselier, le président de la région PACA, a adressé une missive à la Fédération régionale des radios associatives du Sud-Est, la phrase le 8 janvier. Il n'y aura plus de moyens dans le fonds de soutien à l'expression radiophonique régionale pour l'année 2018, alors même qu'il y a une convention qui lie encore la région aux 40 radios associatives de son territoire. Donc peut-être qu'il y aura un contentieux juridique sur la question. En tout cas, la phrase est en train d'étudier la chose pour possiblement se tourner vers le tribunal administratif. En attendant, elle appelle au soutien de ses auditeurs et c'est une pétition qui vous est proposée sur le site change.org. Vous la trouverez facilement en tapant radio associative. On vous parle de fonds de soutien à l'expression radiophonique et on en parlera aussi dans les autres, avec les autres régions, dont Thomas nous fera un focus sur les autres régions, mais le cas de PACA est assez emblématique, puisque en fait ce dont je vais vous détailler à présent a été mis en place en 2005 et a servi de modèle aux autres régions pour d'autres fonds de soutien à l'expression radiophonique. Est-ce que tu peux nous expliquer, Thomas, pour commencer, avant que je poursuive, qu'est-ce que c'est déjà le fonds de soutien à l'expression radiophonique ?
Alors, le fonds de soutien à l'expression radiophonique, il y a premièrement le fonds de soutien au niveau national, qui touche 550 radios pour 680 fréquences et représente 31 millions d'euros par an. Il y a aussi, du coup, ce fonds d'expression radiophonique à l'échelle régionale, à la fois pour une aide à l'équipement ou pour une aide directement aux radios.
Quand on parle de fonds de soutien à l'expression radiophonique régionale, en fait, c'est un petit peu un abus de langage, mais c'est juste histoire de résumer les choses pour dire que les régions rajoutent de l'argent par rapport à ce qui est décidé au niveau national. En région PACA, en l'occurrence, jusqu'à présent, c'était 15% de la somme qui était allouée aux radios, qui était rajoutée en plus, donc calculée sur le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Voilà pour le fonctionnement, auquel s'ajoute une subvention d'investissement à hauteur de 10 000 euros tous les 3 ans. Donc quand même, ça a aidé grandement les radios à fonctionner. Alors tout ça, ça a été balayé d'un revers de manche par Renaud Muselier.
Renaud Muselier a pris une décision brutale, comme tu l'as dit. On se demande tous quelle mouche l'a piqué. Pourquoi cette décision ?
Alors la seule chose qui justifie dans la lettre dont je vous parlais, c'est, je cite, la mutation du paysage audiovisuel. Il faut savoir que la région est passée à droite depuis les dernières élections, donc Renaud Muselier fait partie du parti Les Républicains, et que la région a décidé de financer une télé, Azur TV, et si vous allez voir à quoi ça ressemble, c'est vraiment l'organe de communication de la région. Cette télé touche 1,25 million d'euros par an de la part de la région. Le fonds de soutien à l'expression radiophonique dont on vous parle, ça représente 300 000 euros. Vous voyez l'écart de valeur. Donc cette justification de mutation du paysage audiovisuel a du mal à dissimuler une volonté politique en fait du président de la région, Renaud Muselier, à vouloir museler les radios associatives de son territoire. Celles-ci qui sont déjà en difficulté après la perte des emplois aidés et alors que le FSER national est, du point de vue de chaque radio, en diminution. Est-ce que tu peux nous expliquer, Thomas, préciser sur ce point ?
Alors, le montant du FSER est fixe, il n'a pas baissé depuis plusieurs années. Cependant, le nombre de radios bénéficiaires a augmenté et donc chacune touche une part inférieure du gâteau.
Voilà, et en plus, en ligne de compte, comme me l'expliquait Gilbert Andrucioli, le président de la phrase, le FSER n'a pas pris en compte l'inflation, ce qui fait que les radios se trouvent confrontées à devoir payer toujours plus parce que l'inflation fait augmenter les salaires, fait augmenter le prix des équipements,
le prix du loyer.
Mais les prix des loyers aussi, effectivement, tu as raison de le souligner, Thomas, mais pas le FSER, lui, ne suit pas. Voilà, ce qui met les radios dans des situations très difficiles. Et voilà, on va en discuter avec cet exemple concret de la région PACA, et puis on vous apportera des éléments sur les autres régions par la suite. Pour commencer cette réflexion, on va entendre Antoine Lucas, qui est président de Radio As, qui se trouve sur la Côte d'Azur, et qui est par ailleurs président de la Ligue de l'enseignement des Alpes-Maritimes, puisque Radio As est portée par cette organisation d'éducation populaire, donc pour un projet d'éducation populaire. Ensuite, ce sera Yann Artiglong que vous allez entendre, qui est président de Radio Verdon.
Oui, mais s'il n'y a pas, j'allais dire, une aide qui nous vient directement ou indirectement, je crois qu'on sera obligé peut-être de cesser toute activité ou de trouver une autre forme d'activité. Il paraît qu'on peut continuer sur Internet, mais est-ce que c'est aussi efficace? Je ne sais pas.
Quand vous dites continuer par Internet, si je vous suis bien, c'est par rapport aux frais que vous demande TDF pour la diffusion qui sont importants et...
Très important, très important. TDF nous demande tous les mois 1300 euros. J'allais dire, c'est presque un poste plein de salariés. Et comme on n'a pas les moyens de payer des salariés, il est évident que c'est très difficile pour nous. On a deux salariés, mais seulement ceux qui ont ces salariés qu'on pouvait payer assez facilement avec les aides que nous avions, on ne pourra plus les payer. Et c'était des salariés qui n'étaient pas en contrat aidé. Donc on a poursuivi avec eux, on va poursuivre encore quelques temps, mais est-ce qu'on pourra poursuivre très longtemps? On sera peut-être obligé d'arrêter.
Votre radio et la Fédération des radios associatives du Sud-Est ont un message important.
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé de supprimer l'aide apportée depuis 13 ans aux 40 radios associatives de son territoire. Cette décision brutale et illégale met en péril vos radios et avec elle, votre droit à être informé et à vous exprimer librement. Votre soutien est indispensable. Signez la pétition en ligne sur change.org. Mot-clé, tapez au pluriel, radio locale.
Change.org. Mot-clé, radio locale.
On compte sur vous.
Qu'est-ce que ça pose pour vous à Radio Verdon comme difficulté? Est-ce que votre situation s'est dégradée depuis un an? Voilà, ne serait-ce que par cette histoire de contrat aidé, etc.
Sur les contrats aidés, non. Par contre, effectivement...
Parce que vous n'aviez pas de contrat aidé, vous...
Un contrat aidé.
D'accord.
Mais qu'effectivement, par contre, pour la pérennisation du poste, oui, va poser un problème et une difficulté, parce qu'on est sur deux fréquences. Ouais. Et donc, effectivement, on a un contrat d'avenir qui arrive à terme. On pensait peut-être le pérenniser, mais effectivement, c'est un mauvais signal que la disparition de ce fonds régional, et qui vient de manière cumulée, avec des baisses de subventions de la part de communes ou d'intercommunalités, toujours pour des raisons de baisse des dotations du budget de l'État sur les communes. Donc les subventions baissent ou sont supprimées. Et l'effet cumulatif des choses fait qu'effectivement, au niveau de l'emploi, ça devient de plus en plus difficile.
Qu'est-ce que ça change sur les programmes qui sont proposés à l'antenne, sur l'accueil des bénévoles dans la radio?
Ce qui change, c'est effectivement peut-être moins de temps pour se déplacer et aller sur le terrain. Donc effectivement, on arrive à faire des interviews, mais on fait davantage d'interviews par téléphone et moins de déplacements sur le terrain. Et c'est dommage parce qu'effectivement, il y a une relation particulière qui se crée avec les auditeurs, avec les partenaires, lorsqu'on ne peut aller sur le terrain.
Et du coup, moins de liens avec les auditeurs, donc c'est presque un cercle vicieux.
C'est ça, tout à fait. Ouais. Donc c'est effectivement une source d'inquiétude pour toutes les radios, hein, parce que c'est, selon les radios, entre 5 et 10% de leur budget en moins et de manière très rapide et très brutale.
Alors j'entends bien la nécessité de rappeler les pouvoirs publics à leurs responsabilités, mais est-ce que justement ce ne serait pas une occasion de se réinventer, une occasion de retourner vers les auditeurs? Qui pourrait gagner avec peut-être plus d'indépendance, puisque si les auditeurs sont plus présents dans la vie de la radio et financent davantage la radio, ce serait un meilleur gage d'indépendance a priori.
Il y a la place pour il y a un certain nombre de médias, que ce soit en presse papier ou en radio, qui effectivement fonctionnent très peu avec des subventions. Et c'est un petit peu d'ailleurs leur idéologie. Ils ne fonctionnent qu'avec des auditeurs, souvent des auditeurs qui sont très engagés. Ça permet effectivement d'avoir un certain fonctionnement, mais on n'a pas cette qualité de service que l'on a avec des journalistes, des animateurs qui sont salariés et qui n'ont pas d'inquiétude pour leur avenir immédiat. Voilà, donc effectivement, nous, à Radio Verdon, on avait fait ce choix d'utiliser moins d'emplois aidés, mais de pérenniser et de former le personnel, les animateurs, les journalistes, pour qu'effectivement, il y ait une qualité de travail qui soit importante. Alors, on demande, effectivement, les auditeurs peuvent apporter leur soutien. Mais effectivement, si tous les médias demandent effectivement à leurs auditeurs une aide, effectivement, ça va être très difficile à terme à pouvoir y arriver, quoi. Surtout que l'auditeur, maintenant, est de plus en plus habitué aux services gratuits et à trouver une information qui soit un petit peu partout, qui soit en vidéo, qui soit en audio, qui soit en papier. L'auditeur étant habitué au gratuit, c'est très difficile pour lui maintenant de revenir à un modèle qui soit payant, quoi.
Radio associative ne rime pas forcément avec radio libre. Alors si certaines singent les radios commerciales, ce n'est quand même pas le cas de Radio Verdon. Mais cette radio à cheval sur les Alpes d'Haute-Provence et le Var pratique la publicité. Il faut savoir que pour les radios associatives, la publicité peut se faire à hauteur de 20% de leur budget, c'est ce qui est prévu par la loi. Alors, on peut se poser la question si d'autres radios qui se trouvent étranglées par la situation qu'on est en train de vous décrire ne pourraient pas être tentées d'aller vers cette forme de financement. Et au passage, eh bien, c'est l'indépendance des radios qui est de plus en plus remise en question.
Alors cependant, ces radios associatives sont souvent des radios qui sont locales. Et donc, on peut imaginer, dans une logique de territoire, de pouvoir faire de la publicité éthique. Donc, la publicité d'un commerçant local ou d'un club de sport ou d'un festival de musique.
Alors d'indépendance, justement, il en sera question avec Gilbert Andrucioli dans ce troisième entretien que je vous propose, président de la FRAS donc, et président de la radio donc des Alpes-Maritimes qui va de Grasse à Menton, Agora FM. Donc il revient lui aussi hein, sur l'avis de la FRAS concernant donc la suppression de ce FSER régional par le président Renaud Muselier. Et ensuite, on parlera un petit peu d'indépendance avec lui.
Quand vous avez en même temps la baisse des subventions nationales du fonds de soutien, que vous avez des emplois aidés qui disparaissent ou qui se réduisent comme peau de chagrin, et cumulativement la baisse de l'aide de la région, certaines radios essaieront tant bien que mal de boucher les trous, mais certaines n'y parviendront pas. Ça sera du personnel en moins, soit parce qu'on ne pourra pas recruter les emplois qui étaient aidés et qui ne le sont plus, soit conduire carrément à certains licenciements.
Est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple concret de Agora FM, par exemple, puisque vous en êtes président ?
La situation, c'est deux emplois aidés de moins, c'est-à-dire des tranches d'animation, d'émissions qui ont du mal à survivre, certaines étant carrément supprimées. Parce qu'évidemment, c'est toujours facile de remplacer un homme par une machine. Mais enfin, c'est pas comme ça qu'on veut faire de la radio. Ça va se traduire dans l'avenir comment ? Par, vraisemblablement, un licenciement. Si on reste sur cette tendance négative où tous ceux qui nous apportaient des aides les restreignent ou les suppriment, que restera-t-il ? S'il n'y a plus de radio associative, on reviendrait à l'époque d'avant 81, c'est-à-dire avec ce qu'on appelait l'époque du monopole d'État, ce qui n'était pas vrai, puisqu'il y avait le monopole d'État, et puis il y avait les périphériques, Radio Monte Carlo, RTL, etc. C'est-à-dire il y avait deux monopoles, le monopole d'État et le monopole du fric. Et on reviendrait à ça.
Alors vous oubliez les radios pirates à cette époque-là. Alors là, je vais me faire un petit peu provoque. Est-ce que justement cette défaillance de la part des institutions à financer les associatifs, c'est pas un moyen de se réinventer ? Alors, la solution très radicale, ce serait de retourner vers des radios pirates, pourquoi pas ? Mais peut-être aussi de se réinventer et d'assumer une plus grande indépendance à l'égard des politiques et des institutions en resserrant peut-être le lien avec les auditeurs et que les radios soient financées par leurs auditeurs. Beaucoup de médias aujourd'hui qui se lancent vont dans ce sens-là, être financés par ses lecteurs, par ses auditeurs. Est-ce que ce ne serait pas la solution pour avoir plus d'indépendance ?
On peut rêver de retourner au Moyen-Âge. Et on peut rêver de retourner à une époque...
Donc les radios pirates, c'était le Moyen-Âge pour vous ?
Oui, c'était le Moyen-Âge. C'est une époque où des gens ont voulu briser le monopole d'État et le monopole du fric, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que maintenant, on se dit que l'idéal, c'est de retourner à cette situation dont plus personne ne voulait. Moi, je ne peux pas considérer que la solution, c'est de dire on fait table rase de tout ce qui s'est construit à partir de 1981 pour retourner à la situation antérieure. Je pense, comme je le répète, que ce qui donne la garantie du pluralisme et de la diversité, c'est les associatives. Quand on les empêche de vivre, on porte atteinte à la liberté d'expression, à la diversité et d'une manière générale, à la démocratie.
Vous êtes sur Radio Klaxon. Il fait très, très, très humide. 107.7, vous êtes bien à Notre-Dame-des-Landes.
C'est des pirates, des pirates, des pirates, des pirates. Vous expulsez nos maisons, nous expulsons vos ondes.
Radio Klaxon, la radio pirate faite par des pirates qui n'ont jamais fait de radio, mais qui sont de plus en plus pros.
Oh, hey, hein, bon.
En fait, il y a quatre façons de, que tu nous écoutes en ce moment. C'est en direct.
La radio, on la capte dans un rayon de...
Quand on se moque de moi, oh, hey, hein, bon.
Ou sur Internet, parce qu'on va le mettre sur le site de la ZAD.
ZAD.NADIR.ORG.
Vous pouvez aussi écouter Radio Klaxon en streaming sur radioklaxon.antirep.net/radioklaxon.
If they evict us, we'll be back.
Alors les radios pirates, ce serait le retour au Moyen-Âge. Ben, le Moyen-Âge est bien présent, puisque les radios pirates sont de plus en plus nombreuses à se créer. Elles suivent les luttes, à l'image de Radio Klaxon sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, dont vous venez d'entendre un petit clin d'œil. Au passage, c'est un son que vous pouvez retrouver sur l'audioblog du Bruitagène. Et des radios pirates, il en existe bien d'autres. Il y en a une à Bure, il y en a sur de plus en plus de terrains de lutte. On peut parler aussi des initiatives radiophoniques liées aux luttes qui se sont menées. Radio Debout, par exemple, à Radio Parleur, aux radios qui ont été faites dans les banques aussi, Radio Transparence, pour dénoncer l'évasion fiscale, etc., etc. Les exemples sont nombreux. Tout ça pour dire que, eh bien, finalement, faire de la radio, est-ce que c'est nécessairement dans la forme de radio associative, comme on vient de l'entendre? Eh bien non, il y a plein d'autres formes d'en faire, et l'indépendance est questionnable de ce point de vue. Cela étant dit, ça n'empêche pas de rappeler les pouvoirs publics à leurs responsabilités. Ça n'empêche pas aussi peut-être de rappeler les auditeurs à leurs responsabilités, parce que s'ils veulent des médias de qualité, bah, il faut peut-être qu'ils s'y intéressent un petit peu et qu'ils s'y engagent à l'intérieur aussi un petit peu. Alors on va continuer après cette petite aparté sur cette question des subventions par les régions, des radios. Et Thomas, toi tu as creusé un petit peu la question. Qu'est-ce qui se passe dans les autres régions, puisqu'on a eu cet exemple en PACA et cette brutalité avec laquelle on sucre un système qui marchait plutôt pas mal? Comment ça se passe dans les autres régions?
Alors, le contexte global est défavorable, comme vous le savez, avec une diminution des subventions pour les associations et, de manière générale, une diminution du soutien à tout ce qui est social. En fait, il y a eu un mouvement avec la loi NOTRe qui a modifié le pourtour de nos régions en faisant des régions qui sont plus grosses et compétitives au niveau international. Et ce changement, couplé au changement politique avec les dernières élections régionales, ont fait que, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, on s'est aligné sur le modèle de l'Aquitaine et donc les subventions en Poitou-Charentes et en Limousin ont été supprimées purement et simplement.
Alors qu'elles existaient.
Alors qu'elles existaient et qu'elles étaient assez importantes pour toute la région Nouvelle-Aquitaine.
Ouais. Conséquence directe de la fusion des régions, moi je pourrais vous parler du cas de la région Occitanie, puisqu'il y avait un système à peu près proche de celui de la région PACA qui fonctionnait bien en région Languedoc-Roussillon, mais qui était en difficulté en région Midi-Pyrénées. Et à la fusion des deux régions, ce qui s'est passé, c'est qu'on a gardé le système de Languedoc-Roussillon, mais l'enveloppe est restée la même, alors que le nombre de radios a doublé. Par conséquent, le soutien de la région a été divisé par deux pour chaque radio.
Alors, deuxième point, il y a l'alternance politique, comme je vous le disais. En la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'élection de M. Wauquiez, a entraîné la suppression pure et simple des subventions pour les associations, les radios associatives, pardon, à part l'aide à l'équipement.
Finalement, il était précurseur sur Roland Muselier. Okay.
Tout à fait, il se tire la bourre pour savoir qui va le plus taper dans les associations.
Mais Thomas, est-ce qu'il y a quand même des régions où ça continue de fonctionner bien quand même? Parce que là, on est en train de dresser un tableau assez fatal.
Alors malheureusement, le tableau est assez noir. Il n'y a que 5 régions qui ont encore des subventions régionales. En Pays de la Loire, qui est assez bien loti, la région donne 2000 euros à chaque radio présente sur le territoire, plus une subvention allant jusqu'à 10 000 euros, qui est une subvention sélective, et où il faut répondre donc à certains critères aux radios qui la demandent. Alors, on a aussi la région Bretagne, une aide de 6 000 euros par radio, de base, plus une aide sélective qui peut aller jusqu'à 4 000 euros par an. On a aussi l'Île-de-France, qui va donner une aide jusqu'à 15 000 euros par an, par radio, et qui est une aide donc sélective, ainsi qu'une aide à l'équipement qui monte jusqu'à 15 000 euros et qui est notamment dédiée à la transition vers le numérique et notamment vers les canaux RNT. La région des Hauts-de-France donne, elle, une aide à la coproduction de contenu entre les différentes radios, ainsi qu'une aide à l'équipement, notamment aussi dédiée à la RNT, qui va jusqu'à 18 000 euros. Il y a une double peine, en fait, avec cette suppression des subventions, c'est qu'en fait, le montant total du FSER, donc de l'aide nationale, dépend du budget des radios. Donc on leur supprime la subvention et on diminue leur budget. Donc l'aide qu'ils vont toucher au niveau national va encore plus baisser. Vous vous rendez bien compte que ça pose des vrais problèmes et qu'en 2019, nous verrons quelles radios seront encore debout après la fin définitive des contrats aidés qui sont encore actifs pour le moment.
Ben voilà, on arrive au bout de ce dossier consacré donc aux subventions régionales pour les radios associatives. Vous étiez à l'écoute de Presse Libérée en première partie, c'était un entretien avec les membres de l'Arlésienne, ce journal local du côté d'Arles dans les Bouches-du-Rhône. Cette émission, vous pouvez la retrouver en réécoute sur notre audioblog, sur les audioblogs d'Arte Radio, ainsi que toutes les autres qui ont été faites les mois précédents. Je voulais revenir, avant que l'on se quitte, sur la chronique de Sébastien Boistel pour ajouter une information. Alors Sébastien n'était pas là pour le faire lui-même puisqu'il est en vacances, chanceux. Juste pour vous dire que finalement, eh bien, c'est un montage financier concernant les locaux de la Marseillaise à Marseille, du journal La Marseillaise, qui s'est fait entre Quartus et Nice Matin. Donc voilà, affaire à suivre. Je voulais vous livrer ce complément d'information. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous saluer, que vous nous écoutiez du côté des Alpes sur Radio Zinzine, Radio Dragon ou encore Campus Grenoble, que vous nous écoutiez en Corse sur Nebbia Campus Corté, à Paris sur Fréquence Paris Pluriel, en Alsace sur Radio MNE, à Tours sur Radio Béton, à Marseille sur Radio Galère et enfin à Bordeaux sur La Clé des Ondes. Et bien on va se quitter avec les Dead Sixties et Radio Riot. Merci Thomas et au mois prochain.
Merci Pierre. Salut. À bientôt.